Vous écoutez
RMC. RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Et on accueille tout de suite Denis Gargaud, champion olympique à Rio en canoë monoplace. Salut Denis.
Salut Denis. Et ça, c'est la classe. Hein.
Le Marseillais Denis. Denis.
Et Gaillard Denis. Hein.
Denis, la flamme arrive là d'ici quelques heures. Je vais te poser une question douloureuse tout de suite. Voir la flamme à Marseille, est-ce que ça te fait chaud au cœur ou est-ce que ça ravive ta frustration de pas pouvoir disputer tes chances à Paris?
Rien à voir. Franchement, je te le dis vraiment, il y a rien à voir parce que c'est les Jeux, c'est bien plus grand que moi. C'est magnifique. Tu vois, regarde tout le monde qui a, ils sont pas là pour moi, ils sont là pour la flamme, parce que les valeurs que ça porte pour l'histoire. Et franchement, il y a aucun lien avec ma frustration de ne pas participer à Paris. Bien sûr, je suis déçu, mais
c'est pas lié. Voilà, c'est pas aujourd'hui que c'est dur. Ouais. Quoi, voilà.
On rappelle en quelques mots ton parcours qui est assez incroyable parce que t'as d'abord été concurrent de Tony Estanguet, qui est quand même une sommité de ton sport, qui t'a barré la route sur plusieurs compétitions. Mais quand on regarde dans le rétro, en espace d'une décennie, t'as tout gagné, les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques à Rio. Et puis c'était peut-être pas fini, mais ta fédération a décidé de ne pas te retenir pour les qualifs des JO. C'est-à-dire que tu n'as même pas pu disputer tes chances d'être le meilleur Français en C1 pour les JO de 2024. Comment tu l'as vécu, ça?
Déjà, merci de préciser, parce que je n'ai pas pu faire participer à la qualification. Et c'est la seule chose que les gens ne comprennent pas tout ça, mais c'est ce dont je me suis battu. C'est pour ça que je me suis battu, mais j'ai jamais dit que c'était moi qui devais représenter la France. Ça doit se gagner.
Ça doit se gagner. Il y a des épreuves qualificatives auxquelles tu n'as pas participé sur décision de la Fédé, mais il y a quand même une sorte d'épreuve pré-qualificative lors de laquelle tu n'as pas été très bon.
Non, j'étais blessé, donc
à l'épaule.
Il y a eu un imbroglio entre les règles de sélection.
Stanguet a mis des
derrière les roues.
C'est encore Tony.
C'est toujours lui. Le port.
Non, mais Denis, on vient de sport où, quand tu es tenant du titre, ou quand tu marches sur ta discipline.
Pas tenant du titre, puisque c'était Rio.
Non, mais quand je dis tenant du titre, quand tu as été champion olympique et que tu as marché sur les autres pendant une décennie, tu as au moins ta chance de participer. Voilà, c'est là où nous on comprend pas comment c'est possible qu'on ne t'ait pas donné ta chance. Parce qu'après, tu la perds ta chance. Eh ben, les jeunes, ils poussent, ils sont là pour nous pousser dehors. C'est le sport. Mais quand même, ça, c'est là où je comprends pas. Qu'est-ce que tu leur as fait à ces gens-là pour qu'ils te mettent une carotte comme ça?
Ouais, mais c'est ça, c'est ce que tu dis, mais je pense qu'ils avaient de bonnes raisons. Après, moi, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, et je suis sûr que eux, ils ont une vision, ils ont un plan. J'espère que ça va marcher. Moi, très franchement, j'ai confiance en l'équipe de France.
Quelle explication t'as donné pour clore le sujet?
Pour clore le sujet, c'était l'année dernière. On est dans une nouvelle année. Moi, franchement, c'est du passé. La justice, elle a dit qu'elle n'était pas capable de trancher. Donc c'est qu'ils étaient dans leur droit. Et puis
voilà. Aurait pu représenter l'Andorre ou la Suisse ou
autre. Ouais. Non. Marseille, France.
Juste après on arrête de parler de ça parce qu'il y a d'autres choses plus importantes. Tu as raison. Les fameux concurrents que tu aurais pu rencontrer à ce moment-là. Est-ce que tu vas les rencontrer là dans ce qui arrive là pour toi là?
Oui, mais je les ai déjà rencontrés là pendant les phases de sélection pour la.
Et donc tu les tords un peu? Ou comment ça se passe?
Moi, très franchement, oui, avec mon expérience, je peux encore être compétitif, mais très sérieusement, dans ma discipline, celui qui représente la France, Nicolas Gestin, qui est un petit Breton et qui est très fort. Il a été vice-champion du monde l'année dernière, en élite. C'est quelqu'un qui a le niveau de faire une médaille, voire peut-être de gagner les Jeux. Et j'ai toute confiance en lui sur le fait qu'il va faire une belle prestation.
Alors parlons un peu des chances de médaille justement de la France en canoë et kayak, en eau vive, puisqu'il y a, je vous le rappelle, deux disciplines qui sont très différentes. Ce que fait Denis, ce que faisait Tony Estanguet, c'est de l'eau vive, donc c'est une descente en rivière en gros.
C'est spectaculaire.
Il y a des bassins qui ne sont pas naturels. Et puis après, il y a le plan d'eau, où là c'est de la course sur un plan d'eau, comme son nom l'indique, à plat.
Et après, il y a de l'eau gazeuse aussi.
Et évidemment, ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir. Toi, tu es en eau vive. Quelles sont les chances de l'équipe de France? Est-ce qu'on va se régaler avec l'équipe de France de canoë kayak?
Ouais, c'est sûr. Très franchement, alors déjà dans ma discipline, on est sûr d'être à la course pour la médaille. Voilà, ça c'est, il faut être clair. Et il y a de grandes ambitions pour le canoë monoplace. Et puis ensuite, en kayakom, on a un petit prodige qui s'appelle Titouan Castrix, qui lui est vraiment, il a 19 ans, il est très fort.
C'est quoi, c'est kayak monoplace, ça dit, c'est ça?
Kayak monoplace, d'accord. Voilà. Chez les dames, il y a en canoë, il y a Marjorie Delassus qui a fait quatrième au dernier JO, donc à Tokyo. Donc elle, il faut qu'elle passe la barre au-dessus et qu'elle ramène une médaille. Et chez les kayak dames, c'est Camille Prigent qui elle est classée numéro 4 mondiale,
donc elle joue la médaille.
Elle joue la médaille aussi, c'est sûr et certain.
Mais à savoir que c'est quand même un des sports hyper télégéniques pendant les JO, parce que c'est pas un sport qu'on regarde le reste de l'année, c'est difficile d'accès. Mais quand tu regardes ça pendant les JO, je trouve ça merveilleux. Ce que font ces mecs-là.
Tu passes les portes à contre-courant.
Mais oui, mais moi, ça me. Les bras qu'ils ont, là, c'est pas de la gonflette de rugbyman. Ouais. Hein. Là, c'est des vrais muscles qui tirent les trucs. Là.
Moi, on aurait donné un kayak sur un terrain de rugby, j'aurais glissé. Hein.
C'est sûr, les adversaires.
Et tu as glissé d'ailleurs.
Ça met des coups de pagaie d'ailleurs.
Quelles sont les caractéristiques du bassin de Vaires-sur-Marne, Denis?
Et français.
C'est-à-dire,
il est fait pour nous.
Non mais, ouais, c'est parce que ça nous surprend. Entre un bassin d'eau en Autriche ou un bassin d'eau en France,
justement.
C'est quand même. Ça ressemble quand même un petit peu. Quand même.
Alors il est. Alors c'est un bassin artificiel de à peu près 300 mètres. Il y a 2,80 m de pente, donc il est pas très pentu, il est pas très difficile. Ouais. Il va falloir beaucoup d'efforts pour créer la différence.
C'est-à-dire qu'il est plus physique que technique.
Il est plus physique que technique, et après ça peut dépendre du parcours, du tracé. Donc voilà, il y a une nouvelle version qui va être fait, parce qu'en fait dans notre sport c'est des plots qu'on peut moduler pour faire une rivière un peu particulière.
C'est comme en ski alpin, le slalom est dessiné par un entraîneur avant la course.
C'est ça, ouais, on connaît pas le parcours à l'avance et bon, les Français seront attendus, ils vont être forts, mais alors petit bémol, c'est que comme il a été prêt très tôt, en fait c'est le bassin qui était là pour la candidature des Jeux de Paris 2012. Oui. Il a été fait très tôt et donc du coup tous les étrangers ont
tout le monde s'est entraîné dessus. Tout le monde le connaît.
J'allais te poser la question parce qu'on a eu tout à l'heure pour
Jean-Baptiste Bernard
pour la voile, les Français étaient avantagés parce que justement du travail sur le plan d'eau là depuis un moment. Et oui et non, mais j'allais te demander, est-ce que du coup nous les Français on est avantagés parce qu'on peut s'entraîner plus, mais du coup tu viens de répondre
ça revient,
les mecs sont venus déjà depuis un long moment quoi. Mais et donc tu nous expliquais qu'il y a des plots que tu bouges dedans et qui font que les remous sont pas les mêmes d'une manche sur l'autre quoi.
C'est ça, ouais. Donc ils sont en train de finaliser le parcours pour la version olympique, ouais.
D'accord.
Et je voulais te poser, mettons, tu as déjà fait des périples, mettons, d'une journée, de deux jours, de trois jours, dans les Rocheuses, dans le Colorado, tout ça, pour ton plaisir.
Non. Denver,
des courses comme ça qui font, mettons, 30 bornes ou 40 bornes, ça n'existe pas.
C'est avec les Broncos.
Ça existe. Ouais, la traversée de la Dordogne ou des trucs comme
c'est
ça.
C'est pas ton délire.
Non, ça n'existe pas. On a vu maintenant les nageurs qui font, avant, ça n'existait pas, des 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes, on le voyait pas avant. C'était,
trail en kayak, tu
vois. Ouais, ouais, ça existe.
Ça existe, ouais.
Ton sport est très dur. Le jour où tu vas arrêter.
Un coup pour remontage.
Le jour où tu vas arrêter, est-ce que tu vas vouloir continuer à pratiquer ton sport ou est-ce que tu vas tout balancer, tu vas je passe à autre chose, j'en ai marre, c'est trop dur, en loisir je n'y prendrai pas de plaisir, voilà, tu vois.
Alors la vérité c'est que moi j'ai voulu arrêter là cet automne, j'ai pas pu parce que c'était trop dur physiquement d'arrêter
de couper,
du coup.
Ouais.
Et j'ai repris en janvier et très franchement je me suis dit mais putain j'aime trop ce sport.
Tu aimes ce sport?
J'aime trop ce sport et donc je pense que je continuerai. Et en fait moi l'idée là c'est de refaire la saison, tu vois, et d'arrêter petit à petit histoire de revenir vers du sport loisir. Voilà, donc je le ferai quand
même. Tu vas réussir
à un objectif encore de compète de haut niveau?
Bah oui,
parce que tu dis je vais commencer à arrêter tranquillement.
Ouais,
mais
c'est ça, ouais.
Je sais pas, tu t'es pas fixé à un championnat d'Europe, un championnat du monde, une coupe du monde en particulier?
En fait, je pensais pas pouvoir être réintégré en équipe de France cette année, donc déjà c'est un bon sursis. Donc
t'as pas pu te projeter du coup.
Je me suis pas trop projeté et donc je vais faire la saison et puis je vais me poser.
Est-ce qu'un garçon comme toi, avec ton palmarès, ton expérience, etc., peut devenir ou rêve de devenir entraîneur comme ça arrive dans le foot ou c'est presque logique de
non alors
de transmettre derrière?
Je vais parler avec mon cœur, moi, tu sais. Dans ma vie d'athlète de 11 ans à 36 ans, j'ai jamais eu à payer pour avoir un conseil. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une académie.
Ah, tu as fait tout seul, toi?
Non, c'est pas ça, mais je l'ai pas payé. C'est le système qui me l'a donné, c'est la fédération, les clubs, tu vois, les bénévoles. Donc moi, en faire mon métier, ça me gêne. J'en ai pas envie. Alors c'est pas du tout une critique pour ceux qui en font leur métier, mais moi, j'ai l'impression d'avoir que tout le monde m'a aidé, si tu veux, que tout le monde m'a porté. Donc j'ai envie de rendre, de transmettre, mais gratuit. C'est bénévole.
Tu veux être amateur.
Pour gagner ta vie,
c'est fort. Vincent, t'as un peu le même credo. Toi,
t'aurais dû faire du foot à l'OM.
Lui, même quand tu demandes de l'heure, tout à l'heure, j'ai demandé de l'heure, il m'a fait payer.
Oh. C'est Denis Gargaud dans le Super Moscato Show, médaille d'or olympique à Rio.
Elle est gratuite.
En 2016. Merci beaucoup, Denis.
Denis, bonne chance pour les Jeux.